Je vais donc ouvrir le cycle des 6 conférences que j'ai montées sur quel avenir pour l'Union européenne. Donc je vous propose aujourd'hui de faire surtout une conférence introductive parce que les débats vont dans tous les sens. Enfin, c'est devenu, je trouve, un sujet assez complexe. On verra un petit peu comment on peut synthétiser tout cela et ouvrir les réflexions que vous allez avoir sur les autres conférences. Vous savez qu'après cette conférence, au mois de décembre, vous aurez Jacques Lecacheux qui viendra vous présenter « Politique environnementale et fiscale, deux défis pour l'Union européenne ». C'est un des sujets d'ailleurs sur lesquels il va publier, ou il publie en ce moment un livre chez Armand Collin. Vous avez ensuite Patrick Artus, qui au mois de janvier sera sur « Compétitivité et croissance, quelle stratégie pour l'Union européenne ?» Alexis Penaud, qui est enseignant ici à l'ENS et qui est spécialiste des questions de monnaie, banque centrale, qui viendra sur les défis de la politique monétaire en zone euro. Jérôme Krill, de l'Observatoire français de conjoncture économique, qui est un spécialiste lui, des politiques budgétaires, qui viendra sur les réformes de la gouvernance économique européenne. Et enfin, Jacques Sapir, qui a été très largement médiatisé sur le thème de l'euro et qui fera la dernière conférence au mois de mai sur « Est-il encore possible de sauver l'euro ?» Bon, je pense que ça vous donne encore là un panel à la fois intéressant parce que vous avez des gens qui interviennent par domaine de compétences et en même temps qui ont des analyses qui peuvent diverger sur les solutions pour améliorer la situation au niveau de l'euro. Évidemment, on est dans un sujet de grande actualité. Je voyais par exemple que demain, à l'OCDE, au Château de la Muette, il y a un atelier sur quelles sont les solutions pour sortir de la crise de l'euro. On voit bien que les experts de tous les côtés, sur ce sujet-là, sont en train d'essayer de formuler des propositions, faire que l'on avance, et faire que l'on avance assez vite, parce qu'on voit bien que les tensions augmentent, je dirais, deviennent de plus en plus intenses. Et c'est quand même assez curieux, parce que si on remonte dans le temps, l'Union européenne, ça semblait être une bonne idée. Sur les 60 années, quand on regarde, et non pas simplement sur les 5 dernières années, ça semblait être une très bonne idée. D'abord, en effet, un facteur de paix, et le fait que le prix Nobel de la paix soit attribué à l'Union européenne nous ramène d'ailleurs de manière assez intéressante à ce point de départ. C'est quand même une zone qui a échappé aux conflits qui se sont pourtant tant répétés dans les siècles précédents. Mais c'était beaucoup plus qu'un facteur de paix. Ça devait être aussi un grand levier de modernisation. Il ne faut pas oublier la situation dans la décennie après la Seconde Guerre mondiale. On est dans une situation, par exemple, où en France, l'agriculture est très très peu mécanisée. Et elle ne peut pas être mécanisée parce que les exploitations sont trop petites et les exploitations sont dispersées. Il y a eu une grande période, je ne sais pas si vous en avez quelques souvenirs, du remembrement. Quand il y a eu le remembrement des exploitations agricoles, c'était avec cette idée qu'il fallait absolument moderniser l'agriculture, mais remembrer, ça a signifié pour beaucoup d'exploitations leur disparition. Elles étaient trop petites, elles faisaient 7, 8 hectares, et il n'était pas possible, avec une taille aussi faible, de mécaniser, d'investir dans du matériel agricole moderne. Donc, la question de la modernisation était centrale dans cette période-là, et la mise en place, d'une Union européenne était aussi une véritable question pour accélérer la modernisation. Et ça, c'est quand même une interrogation que vous devez toujours avoir en tête. On était, jusqu'au début du XXe siècle, les leaders technologiques. La première révolution industrielle est européenne, celle du textile, celle du charbon, celle de l'acier. La deuxième révolution industrielle, celle de l'électricité, de la chimie, du pétrole, est très largement européenne dans sa naissance, mais dans sa diffusion, elle sera américaine. Et là, évidemment, il y a une vraie question. Quelle est la différence entre l'Europe qui invente et les États-Unis qui diffusent et se modernisent grâce à cette diffusion ? Et évidemment, il va immédiatement y avoir une idée, c'est qu'ils ont un grand marché, alors que nous avons des marchés morcelés, et que sur des marchés morcelés, regardons par exemple les grandes marques automobiles qui vont naître fin 19e siècle, début 20e siècle, elles ont des petits marchés. Elles n'arriveront pas à faire de la grande série, et c'est Ford qui arrivera à développer une véritable production standardisée dans l'automobile. Et ça, on le retrouve dans tous les secteurs. L'électroménager, ça sera exactement la même chose. Et l'American Way of Life, c'est en fait un gigantesque système industriel qui, en plus, va se doubler d'un système militaro aussi industriel, c'est-à-dire d'un système militaire qui commande énormément l'industrie, mais au niveau d'un gigantesque marché. Alors que nous, que ce soit les marchés domestiques ou les marchés militaires, ils restent nationaux et petits. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on peut avoir inventé, mais qu'on peut très bien ne pas avoir bénéficié de la modernisation qui résulte des inventions. Et ça, c'est une deuxième idée qui était extrêmement importante. Et quand on regarde cette phrase de Jean Monnet, que j'ai mis en exergue ici, eh bien, on voit très bien qu'il a une excellente compréhension des enjeux. C'est-à-dire que ces moyens techniques modernes à la mesure de l'Amérique et de la Russie d'aujourd'hui, de la Chine et de l'Inde de demain, je veux dire en 1954, c'est assez extraordinaire d'avoir déjà cette phrase-là, c'est-à-dire que c'est sur des grands marchés que l'on peut arriver à réaliser cette modernisation qui permettra de relever les niveaux de vie et de maintenir la paix. Ces deux idées sont immédiatement reliées dans l'analyse que fait Jean Monnet de la mise en place, du marché commun. Il me semble aussi qu'on peut ajouter au fait que c'était une bonne idée, parce que c'était un facteur de paix et un levier de modernisation, que l'Europe était aussi un espace naturel pour réaliser des grands projets. Et ça nous paraît très naturel quand on voit le projet aérospatial avec la fusée Ariane, quand on regarde l'aéronautique avec Airbus, on voit bien que ces projets devaient nécessairement et immédiatement être européens. Et quand on conduit à bien ces projets, c'est absolument incroyable comment ça peut fonctionner. Airbus était un nain qui ne représentait rien. Comment ils ont réussi à rattraper Boeing et à dépasser Boeing, c'est une histoire quand même européenne qu'il ne faut absolument pas négliger. Je veux dire que le premier avion que va construire Airbus n'aurait pas dû inquiéter Boeing et aurait dû, au contraire, amener Boeing à renforcer sa stratégie en matière de compétitivité. Eh bien non. En fait, le projet est paru crédible du côté de Boeing parce qu'il était européen et donc qu'il s'appuyait sur un grand marché intérieur. Et c'est quand même un succès absolument incroyable. Et ça, cet élément-là n'a pas disparu aujourd'hui. Le fait qu'on ait un grand marché qui est encore plus grand que celui du traité de Rome, bien évidemment, est un élément essentiel dès qu'on est sur des projets où il y a des coûts fixes gigantesques. Plus vous êtes sur des projets où le coût fixe avant d'avoir produit la première unité est important, plus la taille du marché sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer est déterminante. Puisque, en fait, c'est la taille du marché qui va vous permettre de réduire ces coûts fixes en les partageant sur un grand nombre d'unités produites. Ce qu'on appelle, nous, en économie, des rendements croissants. Donc, je pense que ça, c'est ce troisième élément est aussi présent. Et puis, enfin, plus récemment, il ne faut pas oublier, quand la crise financière a éclaté en 2007, on n'avait pas du tout la vision critique de la zone euro que l'on a actuellement. Quand la crise a éclaté en 2007, l'analyse était qu'en fait, on était peut-être dans une zone qui était un refuge et que les États membres allaient être protégés. Et le premier raisonnement, ça a été « c'est une crise américaine, cette crise américaine va peut-être toucher l'Asie parce que les relations sont intenses entre l'Asie et les États-Unis, mais l'Europe est relativement à l'abri parce qu'on pensait d'abord être moins engagé dans les produits financiers qui étaient incriminés. Et le premier temps, ça a été, c'est peut-être aussi une zone refuge. Et ce n'est qu'au fil du temps que, par contre, cet avantage est apparu beaucoup moins évident et que de zone refuge, on est progressivement devenu, au contraire, une zone problème. entre 2007 et 2012, on a un véritable basculement de l'analyse autour de l'Union européenne et à l'intérieur de l'Union européenne, de la zone euro. On va commencer en fait à se dire ces pays sont des pays problématiques, d'abord parce qu'ils sont confrontés à une montée des dettes souveraines qu'ils n'arrivent plus à financer. Et très souvent, dans les dettes souveraines, du coup, nous aussi, on va avoir des crises bancaires qui vont apparaître parce que ces dettes souveraines sont détenues très largement par les systèmes bancaires européens. Donc, en même temps qu'on a les États qui deviennent plus fragiles, les systèmes bancaires à l'intérieur de ces pays sont aussi fragilisés par le fait qu'ils détiennent ces dettes sur lesquelles on pense que le risque augmente. Et on va commencer à voir de plus en plus dans les analyses économiques l'idée que l'Europe est le maillon faible de la croissance économique mondiale. Et quand les Américains s'intéressent à l'Europe, d'ailleurs, c'est souvent par ce biais-là aujourd'hui. C'est quand même problématique, ces Européens qui n'arrivent pas à recréer de la croissance parce que c'est un marché qui n'est pas dynamique. Et comme ce marché n'est pas dynamique, ça ne nous aide pas à la reprise économique chez nous. Et donc l'Europe devient un peu comme un espèce de handicap de l'économie mondiale parce que ce serait la zone où la croissance économique est atone. Elle reste très très faible et les perspectives de croissance sont extrêmement limitées. Et puis, face à ces problèmes-là, on a commencé à se demander, mais qui est le pilote dans l'avion? Qui, face à ce problème, va pouvoir résoudre le problème européen? Et du coup, on a vu ça aussi apparaître, l'idée qu'il y avait une absence de gouvernance visible en situation de crise. En tout cas, même si, il y avait des chefs d'État qui pouvaient s'entendre, la réactivité était très lente. Et donc, non seulement c'est apparu comme étant un maillon faible de l'économie mondiale, mais en plus un maillon fragile, parce que la gouvernance de cette zone n'est pas claire pour le reste du monde. Et donc, évidemment, de ma très bonne idée de départ sur « il y avait des tas de bonnes raisons de faire l'Union européenne », on en est arrivé à « mais si ça fonctionne si mal, est-ce que c'était une si bonne idée que ça ? Et est-ce que finalement, aujourd'hui, il y a encore une perspective pour cette Union européenne, s'il n'y a pas de gouvernance, si on n'arrive pas à faire de la croissance en se réunissant ? Si on a des problèmes financiers où il faut porter le fardeau des autres, on commence sans arrêt à voir des raisons qui sont invoquées, qui mettent en cause le fonctionnement de cette Union européenne. Alors, il ne faut pas oublier que pour ceux qui mettent en cause le fonctionnement de l'Union européenne, généralement, ils ont beaucoup de mal à nous donner le coût de sortie de cette Union européenne ou le coût, par exemple, de sortie de l'euro. On a beaucoup de débats. Donc, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Mais quand on est dans une situation problématique comme celle qu'on connaît aujourd'hui, la sortie du système peut être extrêmement coûteuse aussi. Voilà les premières idées que je voulais partager avec vous sur ce sujet de l'Union européenne. Et je vais essayer d'avancer en voyant qu'aujourd'hui, la semaine dernière, on a vu qu'il y avait une proposition de notre président de la République qui a proposé que l'on aille vers l'intégration solidaire. C'est-à-dire qu'on voit bien des tentatives pour relancer aujourd'hui le projet européen. Et on met en avant, hein, vous voyez, j'ai repris le texte d'Éric Le Boucher dans Les Échos de vendredi dernier. Vous voyez qu'on peut avoir des projets pour avancer vers l'union budgétaire, la mise en place de l'union bancaire pour 2013, l'idée même de créer un budget spécial de la zone euro avec un renforcement des contrôles parlementaires. Et ça veut dire être plus audacieux, par exemple, en essayant d'aller plus loin dans les politiques industrielles, fiscales, sociales. Ça peut aussi vouloir dire, ici, avoir un budget qui permette, par exemple, d'aider à maintenir à flot les systèmes de protection sociale des pays d'Europe du Sud qui sont particulièrement en difficulté aujourd'hui. C'est-à-dire jusqu'où nous allons dans la solidarité, là, il y a une vraie question, il y a des systèmes de protection sociale qui sont aujourd'hui particulièrement fragilisés. Est-ce que c'est le rôle de l'Union européenne de renforcer ces solidarités ? J'y reviendrai, on va voir qu'un des problèmes de l'Europe, c'est justement cette tendance à l'éclatement. Mais derrière tout ça, il y a quand même une assez grande ambiguïté quand on est sur l'intégration solidaire, c'est que depuis le début, on nous dit qu'il faut faire de l'intégration économique, mais c'est pas si simple de savoir quelle est l'intégration que l'on veut réellement mettre en place dans cette Union européenne. Parce que quand on regarde, on veut évidemment combiner des dimensions économiques et politiques, mais on a voulu l'élargir, on a pensé qu'en fait, il y avait deux logiques qui devaient nous orienter, qui étaient, un, l'élargissement, on devait intégrer une zone de plus en plus large, et deux, l'approfondissement. On devait faire que l'intégration touche de plus en plus de domaines. Donc, élargir et approfondir ont été les deux logiques qui nous ont orientés. Et là, j'ai repris un texte de deux spécialistes sur les questions européennes, Farvac et Foucault, qui nous rappellent quand même une chose toute simple, c'est qu'il ne faut pas oublier que, d'abord, l'Union économique européenne reste la première zone économique mondiale, c'est-à-dire qu'il faut bien voir de quoi nous sommes en train de parler. Si ça inquiète autant les Américains, l'absence de croissance économique, vous allez le voir, je vous donnerai quelques graphiques, on est la première zone économique mondiale et il y a beaucoup de débats sur la mondialisation. Il y a des partisans de la démondialisation, même dans les ministres. En fait, c'est un point sur lequel il faut être très prudent. L'Europe ne s'en est pas si mal tirée au niveau de la mondialisation. Elle ne s'en est pas si mal tirée, c'est-à-dire qu'en fait, elle résiste. Et quand je regarde un peu les données alors de cette union économique qui est quand même un peu compliquée, hein, quand on regarde comment on a bricolé notre union, vous l'avez là. Vous avez en jaune ceux qui sont les membres qui ont adopté l'euro. Vous avez en grisé avec des petits carreaux ceux qui ont un statut spécial qui n'ont pas voulu de l'euro, le Danemark et la Grande-Bretagne. Et puis vous avez les membres de l'Union européenne qui ont un statut dérogatoire et qui pour l'instant ne sont pas dans l'euro. Donc déjà on a un mécanisme qui est complexe, hein, on a une intégration à géométrie variable, mais cette zone, cette grande zone, quand on regarde ce qu'elle pèse, ben voilà. Si je regarde ici l'évolution des parts dans le PIB mondial, en parité des pouvoirs d'achat, c'est-à-dire ici en égalisant le pouvoir d'achat des monnaies de chaque zone, eh bien vous remarquez que même s'il y a une tendance à la diminution, ce qui est logique, à partir du moment où un pays comme la Chine a une part croissante dans le PIB mondial, la part de l'Union européenne se réduit, mais la part de l'Union européenne fait qu'elle reste encore aujourd'hui la première zone économique. Si on prend l'Union européenne à 27, on est la première zone économique mondiale. Et quand on s'inquiète au niveau international de la panne de croissance de cette zone, on comprend mieux. C'est la première zone économique qui aujourd'hui est en difficulté par rapport à cette question de la croissance économique. Mais il y a encore plus spectaculaire si je prends le commerce mondial en 9 zones. Eh bien, je ne peux pas mettre l'Union européenne à 27 sur la même échelle que les autres parce qu'elle pèse trop lourd. Si vous regardez là le graphique que je viens de vous mettre, on est obligé de mettre l'Union européenne sur une échelle de droite et les autres zones sur l'échelle de gauche, parce qu'on est on est beaucoup trop au-dessus par rapport à ces autres zones. C'est-à-dire que quand vous regardez ici l'Union européenne à 27, on représente dans le commerce de biens et services 39% en 2007, juste à la veille de la crise, 39% du commerce mondial de biens et services. Et donc, vous voyez, il faudrait soit faire un graphique où on aurait ici une courbe pour l'Union européenne qui serait très au-dessus, ou si on veut la mettre avec les autres, on est obligé de mettre une échelle à droite pour l'Union européenne, que pour elle, et tous les autres sur l'échelle de gauche. Et quand vous regardez, on voit bien que l'Asie de l'Est et du Sud-Est a une croissance absolument incroyable. Au passage, ce que nous montre ce graphique-là, c'est qu'il s'est produit quelque chose de tout à fait stupéfiant dans les années 70-80. C'est-à-dire que des zones qui représentaient autour de 5% du commerce mondial, ici, vont voir leur part augmenter. C'est l'Asie qui a cette part. C'est-à-dire que l'ouverture économique de l'Asie est une véritable révolution économique et quelque part qui illustre un peu ce que disaient les économistes en matière de théorie du commerce international. Quand vous exploitez vos avantages comparatifs, vous pouvez en effet améliorer le bien-être dans votre économie de manière considérable. Vous pouvez me répondre avec beaucoup d'inégalités, c'est pas faux. Mais même s'il y a beaucoup d'inégalités, le PIB par habitant, en tout cas, augmente considérablement. Et donc, quand vous regardez cette situation, c'est peut-être pas l'Europe qui est le plus inquiétant. Sur ce graphique, ceux qui ont connu l'évolution qui peut paraître peut-être la plus inquiétante, c'est plutôt l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada. C'est la courbe en noir, qui était dans une situation, à la fin des années 60, qui était une situation de domination, puisqu'en plus il n'y avait pas d'Europe à 27 à ce moment-là, mais qui aujourd'hui ont vu leur part de marché considérablement se réduire dans le commerce mondial. Et c'est un des enjeux, quand on parle aujourd'hui ici d'une réindustrialisation des États-Unis, c'est qu'il y a un véritable enjeu parce que c'est ce pays-là, États-Unis et avec Canada, qui ont vu leur part décroître le plus dans le commerce international. Donc pourquoi je vous donne ces deux graphiques-là ? Pour relativiser quand même tout ce qu'on va pouvoir dire pendant l'année sur l'Union européenne, il faut que vous ayez en tête quand même le poids de cette zone et le fait qu'elle n'est quand même pas condamnée à jouer en seconde division. Elle est aujourd'hui une zone économique qui a un poids incontestable et que la véritable question, c'est plutôt une bonne nouvelle que le reste du monde se développe, mais l'Europe n'est pas condamnée à décliner, en tout cas à connaître, par exemple, le même processus que les États-Unis, tel qu'on peut le voir là, surtout, vous voyez, dans le début des années 2000, pour les États-Unis, ça a été vraiment une période où il y a un déclin très rapide de leur part dans le commerce mondial. Alors, j'entre après cette présentation très générale de la situation européenne sur le plan de la conférence en posant le problème, l'Union européenne, c'est un espace intégré. Mais ce qu'on appelle espace intégré en économie, ça peut correspondre à des choses très variables. Et on verra qu'il y a différents niveaux d'intégration. Mais en tout cas, on en attend des effets positifs. Et ce sera le deuxième point. On verra un peu les effets attendus d'une union douanière. Et pourquoi on a voulu l'élargir, l'approfondir au fil des années. Avec un débat qui s'est imposé. Je pense qu'un débat central est celui sur la convergence. Est-ce que faire une union a permis de converger ? Et on verra que la notion de convergence est une notion qui est assez ambiguë. Et de là, on abordera la capacité de cette zone à conduire des politiques en cas de crise. Et on évoquera rapidement, puisque ça va plutôt être les sujets des conférences suivantes, les voies de réforme qui, aujourd'hui, pourraient être mises en avant si on veut sortir de cette situation. Première chose, si on est en effet une première zone économique, il faut quand même dire que c'est une zone qui est un peu complexe, parce que si vous regardez comment on a organisé cette zone, on a à la fois des méthodes qui sont dites communautaires, et en même temps, on a ce qu'on appelle aussi de l'intergouvernementalisme, terme absolument épouvantable, c'est-à-dire que normalement, cette Union européenne, depuis le traité de Maastricht de 1992, fonctionne avec trois piliers. Il y a un pilier qui est le pilier initial depuis le traité de Rome, qui est ce qu'on appelle le pilier communautaire. Le pilier communautaire, c'est celui qui est piloté par la Commission européenne. Et donc là, on a réellement une intégration, c'est-à-dire qu'on a là les politiques qui sont menées au niveau de l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est la politique agricole commune, l'union douanière, le marché intérieur de l'euro. Donc on a quelque chose qui est intégré. Mais à côté de ça, on a le deuxième et le troisième pilier. Le deuxième pilier, c'est la politique étrangère, la sécurité commune. Et le troisième pilier, c'est la coopération policière, donc en matière judiciaire et pénale. Et dans ces cas-là, eh bien, c'est une méthode de coopération qui est en place. Les États ont le droit, en fait, d'initiative partagée avec la Commission, et on fait de l'intergouvernementalisme. Donc il faut voir qu'on a un système quand même dans l'Union européenne qui est un système complexe, et je pense que souvent quand on a des débats aujourd'hui, c'est qu'en fonction du domaine dans lequel on se situe, la prise de décision est extrêmement variable. Et toute une partie, en effet, relève toujours très largement de la volonté des États. La Commission peut vouloir donner un avis. Mais il faut qu'il y ait une coopération entre les États si on veut avancer. Et en matière de police, on a un excellent exemple, par exemple, là, des limites. Hein. Il n'y a pas une police européenne aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a des domaines sur lesquels l'intégration est plus difficile. Je vous rappelle que Jacques Delors, d'ailleurs, quand on est passé à l'euro, disait oh, « c'est peut-être un des sujets sur lequel ça va être le moins difficile d'arriver à se mettre d'accord. Peut-être que passer à une monnaie commune est le plus facile à réaliser. » Peut-être qu'aujourd'hui, il ne dirait pas la même chose, mais en 1992, on pouvait le penser. Donc, les degrés d'intégration, d'abord. En économie, il y a un économiste, en 1961, Béla Balassa, qui nous a dit, en fait, si on veut s'intégrer, on peut le faire à différents niveaux. Et il faut choisir. On peut vouloir se limiter à une zone de libre-échange, c'est-à-dire des pays membres qui décident entre eux de supprimer leurs barrières commerciales, mais chacun conserve ses barrières nationales particulières à l'encontre du reste du monde. C'est-à-dire, chaque pays qui est dans une zone de libre-échange a le droit d'avoir des droits de douane avec les pays extérieurs à la zone de libre-échange différents. Donc on peut en avoir qui sont très protectionnistes vis-à-vis du reste du monde et d'autres qui le sont moins. Simplement, entre eux, à l'intérieur de la zone, là, ils décident d'enlever leurs barrières. Donc ça, c'est une solution, et c'est par exemple la solution de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, qui a été mis en place en 1994 entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Entre eux, ils décident d'avoir un marché intérieur libre de droit, mais par contre, ils ont la politique commerciale qu'ils veulent, chacun, vis-à-vis du reste du monde. Donc c'est un accord à minima. Deuxième solution, on peut passer à ce qu'on appelle l'union douanière. Là, on a un abandon de souveraineté qui est plus important que dans la zone de libre-échange, c'est-à-dire qu'on adopte un tarif extérieur commun à l'égard du reste du monde. Donc on s'enlève à un deuxième degré de liberté. Non seulement on fait du libre-échange à l'intérieur de la zone, mais en plus, on décide d'avoir le même système douanier vis-à-vis du reste du monde. C'est la solution de la Communauté économique européenne de 1968 à 1992. On était une union douanière. Pour que le marché devienne vraiment commun, il faut qu'à l'intérieur de l'union douanière, on ait une libre circulation à la fois des marchandises, des capitaux et des hommes. Donc là, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on ait une politique de la concurrence et une politique de l'immigration qui deviennent communes. C'était l'objectif de l'acte unique de 1986, créer un véritable marché intérieur unique avec liberté de circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux. On peut encore aller plus loin, vous voyez, c'est l'idée de faire de l'intégration économique. L'intégration économique, ça veut dire que là, vous allez devoir harmoniser vos politiques économiques, donc que toutes les politiques ici soient pensées, les politiques économiques soient pensées à l'échelle de l'Union. Et pour que l'intégration soit complète, il va falloir faire une union monétaire. Et la forme la plus aboutie d'union monétaire, c'est évidemment de passer à la monnaie unique. Et le dernier stade pour Béla Bélassa, c'était l'intégration totale, où là, vous avez non seulement une intégration économique, mais politique. Et donc, ça veut dire que là, vous allez créer véritablement une autorité supranationale, une autorité supranationale démocratique. Hein, donc, il faut un système politique avec élection au niveau supranational. Ça peut paraître un peu simpliste, ce type de division, mais ça montre qu'en fait, on peut en effet approfondir de l'intégration. On peut aller de plus en plus loin. C'est ce qu'on a cherché quand même à faire au niveau européen. La typologie que je viens de vous présenter peut en fait être complexifiée parce qu'il y a des pays qui décident d'avoir, par exemple, des accords préférentiels commerciaux entre eux. Ce n'est pas une véritable zone de libre-échange, c'est juste un accord préférentiel. Vous avez un pays avec qui vous décidez d'avoir un accord commercial. Et parfois, ça peut être un accord que sur certains produits, sur des matières premières, par exemple. Et puis, vous pouvez en avoir qui ont aussi des systèmes mixtes. Si vous prenez, par exemple, le Mercosur, le marché commun du sud de l'Amérique latine, alors eux, c'est très compliqué parce qu'ils ont à la fois une union douanière entre certains pays. Ils ont créé une union douanière entre l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay. Mais en même temps, ils ont une zone de libre-échange bilatérale avec la Bolivie, le Chili, le Pérou et le Venezuela. Donc, ils sont à la fois zone de libre-échange et union douanière en même temps dans le Mercosur. Donc vous voyez, on peut vraiment inventer de l'intégration à géométrie très variable. Ça explique qu'il n'y ait pas de modèle et que l'Europe est évidemment en soi un cas original d'intégration. Alors pourquoi s'intégrer ? Je vais aller assez rapidement. Les économistes nous disent, a priori une union douanière, c'est bien. Si ce que cela va créer comme commerce à la suite de la mise en place de votre union douanière avec un abaissement des tarifs entre les pays membres crée plus de commerce à l'intérieur de la zone que ça ne détourne de commerce entre la zone et le reste du monde. Ça consiste à faire un calcul sophistiqué. Quand je fais une union douanière, est-ce que le supplément de commerce qui résulte du fait de cette union douanière entre pays membres, l'emporte sur la perte de commerce liée au flux que je ne fais plus avec le reste du monde. J'achetais des voitures aux Américains, maintenant, comme j'ai fait une union douanière, j'achète des voitures aux Allemands. Les Français achètent des voitures aux Allemands, c'est de la création de commerce. Les Français n'achètent plus de voitures américaines, c'est du détournement de commerce. Et donc, l'économiste dit, si les créations de commerce l'emportent sur les détournements de commerce, l'union douanière améliore le bien-être de la zone. Alors, on a fait des tas de calculs, très clairement, de manière empirique, les créations de commerce l'emportent très largement sur les détournements de commerce. Mais ce qui est plus amusant, et ce n'est pas surprenant, un certain nombre d'études nous montrent que les détournements de commerce sont négatifs. C'est-à-dire que quand on a mis en place le marché commun, non seulement ça a permis de développer le commerce entre les pays européens, mais ça a aussi développé le commerce avec le reste du monde, ce qui est très logique. Quand vous êtes plus compétitif grâce à un grand marché, non seulement vous vendez plus sur votre marché, mais vous vendez plus aux autres, et vous êtes aussi amené à leur acheter plus. Et donc, en fait, très largement, on peut dire qu'en termes économiques, eh bien, l'union douanière a été largement profitable, les créations de commerce l'ont emporté sur les détournements et on pense que même les détournements ont plutôt été à un niveau négatif. Donc il y a eu un certain nombre de tentatives ici de calculs pour voir ce que ça pouvait représenter. On a estimé que en fait le commerce à l'intérieur de la zone était à peu près 35% plus élevé que ce qu'il aurait été si on n'avait pas créé l'union douanière, ce qui est quand même considérable. Il faut voir que les effets qu'on a obtenus ne sont pas que ces effets-là. Il y en a toute une série d'unions douanières. En quoi c'est très avantageux de faire une union douanière ? On a d'abord ce qu'on appelle des effets de consommation, et a priori vous les avez tous vécus. C'est-à-dire qu'il y a une baisse des prix qui résulte de la fourniture de biens par les entreprises les plus performantes. Quand vous créez une union douanière, si vous avez des entreprises qui sont plus performantes à l'intérieur de cette union, ils vont vous vendre des produits moins chers. Je pense que si on regarde l'électroménager, vous savez, on avait des tas de jolies marques françaises dans les années 60. On a gardé souvent les noms de ces marques, des réfrigérateurs et des cuisinières, mais ce n'était plus nous qui les fabriquions. Et qui est-ce qui a tiré son épingle du jeu? C'est-à-dire qui est-ce qui a vendu moins cher que les fabricants français? Les Italiens. Ce sont des marques italiennes et qui se sont imposées tout simplement parce que ça vous coûtait moins cher et vous n'avez pas sauvé les marques françaises. Vous avez acheté des réfrigérateurs, des cuisinières et des machines à laver italiennes. Mais ce qui est arrivé aux Italiens aussi est la même chose que ce qui est arrivé aux Français. Qui est-ce qui a eu tendance à prendre le relais des Italiens ensuite? Ce sont les Espagnols. Et on a vu des produits électroménagers espagnols arriver qui étaient moins chers que les produits italiens. Et aujourd'hui, vous voyez arriver des produits qui peuvent venir en effet d'Asie, d'Europe centrale, parce que ces produits sont moins chers. C'est ce qu'on appelle des effets consommation. Et ce n'est pas la peine de se lamenter, c'est vous, consommateurs, qui arbitrez sans arrêt. C'est vous qui arbitrez entre les Français, les Italiens, les Espagnols, les Roumains ou les Chinois, en changeant en fait les produits que vous décidez d'acheter. Et vous allez acheter, pour un certain niveau de qualité que vous estimez nécessaire, le produit qui vous semble moins cher. Et ça, bah, c'est quand même directement dans une union douanière, c'est extrêmement avantageux. Ça se met en place et ça a été le premier bouleversement. Pour ceux qui ont peut-être quelques souvenirs des années 60, ça a d'ailleurs été la grande peur. À ce moment-là, quand on regarde la situation française, on voit nos marques industrielles péricliter parce qu'elles ne sont pas assez compétitives. Et dans le secteur électroménager, dans le secteur de la télévision aussi, très souvent, on a perdu des parts de marché parce que c'était les Italiens, sur beaucoup de ces produits-là, qui étaient plus compétitifs que nous. Et ensuite, avec l'Espagne, on a vécu la même chose, et c'était plutôt l'Espagne qui s'est retrouvée à être plus compétitive que les Italiens. Donc, on a ce phénomène-là, qui est quand même plutôt une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que si vous payez moins cher, c'est exactement comme si vos revenus augmentaient. Je vous signale que les anglo-saxons sont très sensibles à ça et que les consommateurs en France le sentent moins. Peut-être parce que la baisse de prix liée à la mondialisation a été moins nette en France qu'au Royaume-Uni. Les enquêtes au Royaume-Uni montrent que les Anglais, par exemple, eux, voient d'un assez bon œil la mondialisation parce que beaucoup de prix ont baissé sur le marché du Royaume-Uni. Ils ont un peu moins baissé en France, mais ça, ce sont des effets consommation. Si vous payez moins cher vos produits, c'est comme si vos revenus augmentaient. Vous allez pouvoir, avec le même revenu nominal, acheter plus de biens, puisque c'est en fait, ici, une augmentation de votre revenu réel. Vous touchez la même somme tous les mois, mais les prix baissent. Donc, le revenu nominal est constant, mais le revenu réel est croissant. C'est une des questions qui est rarement abordée autour de la mondialisation. Est-ce que les consommateurs, très discrets, n'auraient pas regardé quand même avec un certain plaisir la mondialisation, puisque c'est une des rares opportunités de faire augmenter votre revenu réel? Je pense que pour beaucoup d'entre vous, il n'y a pas tellement d'autres solutions aujourd'hui pour faire augmenter le revenu réel que d'avoir les prix qui baissent. Si vous avez des revenus sous forme de salaire ou de pension qui augmentent subitement chaque année, dites-le-moi. À mon avis, vous pouvez plus espérer de la baisse des prix que de l'augmentation du revenu nominal. Ça, c'est l'effet consommation. Et donc, on peut imaginer que là, les Européens ont vu ça avec un certain plaisir. Depuis les années 60, cet effet a fonctionné. Deuxième effet très positif, qu'on appelle les effets économie d'échelle. Quand vous produisez pour un marché qui est plus large, c'est ce qui s'est produit aux États-Unis, hein, les coûts fixes unitaires diminuent, c'est-à-dire que vous créez une usine. La création d'une usine, c'est un gigantesque coût fixe. Mais si vous distribuez vos produits sur une grande zone intégrée, eh bien, vous répartissez ce coût fixe sur un grand nombre d'unités vendues. Et donc, vous allez avoir des rendements croissants. Et quand il y a des rendements croissants, ça veut dire que les prix vont pouvoir baisser et que les entreprises vont être incitées à faire des investissements. Et là, évidemment, c'est un des points importants de la modernisation. S'il y a des économies d'échelle, c'est intéressant pour une entreprise d'avoir un programme ambitieux en matière d'investissement, puisqu'elle sait qu'elle va pouvoir les récupérer parce que les coûts fixes unitaires vont baisser. C'est un point central. Si les coûts fixes unitaires ne diminuent pas, l'incitation à investir est extrêmement faible. Donc quand vous avez une union douanière, vous avez cet avantage-là. Troisième avantage qui est cité, parfois le régionalisme éducateur. Je trouve que l'expression est jolie. Quand il y a ces fameuses économies d'échelle qui renforcent la compétitivité des entreprises, eh bien, ça amène un certain nombre de ces entreprises européennes à se dire « Mais à partir du moment où je suis plus compétitif et que je conquiers des parts de marché, moi, Italien, qui vend maintenant facilement aux Danois, aux Français, aux Anglais, aux Allemands, pourquoi je n'irais pas vendre aussi aux Américains ?» Et donc, c'est ça, le régionalisme éducateur, c'est qu'en fait, ça prépare l'ouverture à la concurrence mondiale. Et c'est un des points qui n'est pas négligeable. Vous avez vu qu'au début, je vous ai montré que notre part dans le commerce mondial domine largement et que nos entreprises, nos champions en fait internationaux sont au niveau mondial très performants aujourd'hui. Et on peut se demander si l'Europe n'a pas largement contribué à façonner ces champions internationaux européens qui aujourd'hui sont très compétitifs à l'échelle mondiale. Et donc c'est ce régionalisme éducateur, alors ceux qui connaissent un petit peu les choses en économie se diront, mais ça ressemble beaucoup à quelque chose qu'on appelle aussi le protectionnisme éducateur. C'était un économiste allemand, Frédéric List, qui avait écrit en 1841 un ouvrage sur le système national d'économie politique et qui avait déjà expliqué à ce moment-là un petit peu de protectionnisme, c'est pas mal quand vous avez des entreprises naissantes. Quand elles sont des jeunes pousses, un peu fragiles, qui ne résisteraient pas à la concurrence des grosses entreprises dans un secteur, vous les protégez un peu, le temps qu'elles puissent arriver à conquérir une part suffisante de marché intérieur. Quand elles ont une part suffisante de marché intérieur, ça leur permet de diminuer leur coût fixe unitaire, ce que je viens de vous raconter. À ce moment-là, elles deviennent un petit peu plus ambitieuses dans leur programme d'investissement. Et là, quand elles sont un peu plus compétitives, vous les protégez moins. Vous faites baisser le tarif douanier, vous les soumettez à la concurrence internationale, mais elles sont assez fortes pour essayer de lutter sur le marché international avec les entreprises qui sont déjà bien implantées. C'était ça la thèse du protectionnisme éducateur de Frédéric List. Et finalement, l'idée, c'est est-ce que ça ne serait pas aussi ce que l'on aurait fait au niveau européen, une forme de régionalisme éducateur qui expliquerait comment on a fait naître des champions. C'est vrai qu'on a créé quand même, dans toute cette période-là, des champions internationaux dans tous les secteurs. Donc, quelque chose a dû fonctionner. Mais en même temps, on a d'autres effets qui posent des problèmes. Et il y en a un tout particulièrement. C'est que, contrairement à ce qu'on pense en économie de manière simple, la richesse ne se diffuse pas de manière, sous la forme de ruissellement. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on va avoir à un moment donné une modernisation d'une zone que toutes les régions vont en bénéficier de la même manière. Et en fait, il y a des effets de polarisation. Et ce qu'on appelle les effets de polarisation, ce qui a été développé en économie géographique, c'est quelque chose qui est très facile à comprendre et qui revient à mes économies d'échelle. C'est que les activités ne vont pas se localiser n'importe où. Vous allez vous localiser là où il y a les fournisseurs qui vous sont le plus utiles, là où il y a les compétences dont vous avez besoin, donc les travailleurs qualifiés qui vont vous être les plus utiles, et puis les entreprises avec lesquelles vous avez besoin de travailler. Et pour ça, vous cherchez la zone où il y a la plus grande diversité. Et la zone où il y a la plus grande diversité, ça va être les grandes métropoles, où vous allez trouver à la fois la main-d'œuvre qualifiée, tous les services qui vous sont utiles, et très souvent aussi les infrastructures les plus performantes. Vous allez avoir des réseaux de communication beaucoup plus rapides. Résultat, il y a quand même un véritable problème, et ce problème est celui de la polarisation. Alors, j'ai pris un exemple ici, qui a été fait par des auteurs du Centre d'analyse stratégique, qui essayent de nous montrer, alors c'est totalement illisible ici, les petites couleurs, c'est l'intensité technologique des emplois. Donc vous avez des emplois qui sont très très peu technologiques et qui sont représentés dans les zones en blanc. Et plus vous allez vers du bleu foncé, plus vous avez là des emplois qui sont dans des secteurs de haute technologie, qui se concentrent donc sur des qualifications élevées et sur de la haute technologie. Vous avez la carte européenne de 1998 et celle de 2008. Et ce que vous voyez quand même, c'est une tendance assez inexorable. Les zones en bleu foncé ont tendance à se réduire en nombre quand on passe de 1998 à 2008, c'est-à-dire qu'en fait, les emplois dans les secteurs de haute technologie n'arrêtent pas de se concentrer. Et c'est très intéressant parce que vous voyez que ce n'est pas seulement un problème de pays, la polarisation. Alors, vous pouvez regarder et trouver que ce n'est pas si mal que ça pour la région Rhône-Alpes, parce que vous êtes dedans, bien évidemment. Mais si vous regardez pour d'autres régions, ça se complique beaucoup. Et pour la partie ouest de la France, par exemple, la situation se complique. Et ça, c'est un effet qui est assez inexorable. À partir du moment où vous faites une union régionale, vous allez avoir des économies d'échelle qui sont faciles à réaliser sur un grand marché en allant localiser vos activités là où les autres entreprises modernes sont déjà implantées. Donc, les entreprises de haute technologie sont attirées par les localisations des autres entreprises de haute technologie. Et ça, à mon avis, c'est un véritable problème que vous pourrez avoir en tête tout au long des conférences. Parce que ça, ce n'est pas seulement le problème de divergence entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, dont on parle beaucoup et sur lequel nous allons revenir. C'est un véritable problème ici d'hétérogénéité croissante à l'intérieur des territoires et que l'Europe doit inventer quelque chose pour répondre à ça. Parce que si, en 2018, j'ai une troisième carte qui est encore plus concentrée que celle-là, il ne peut pas y avoir de cohésion sociale dans une zone comme celle-là, sauf à avoir des déserts dans certaines parties de pays et des concentrations, avec tous les problèmes, les concentrations de population, d'activité et de technologie sont source aussi de beaucoup d'effets externes négatifs. Alors, soit on pense que les effets externes négatifs vont l'emporter et qu'il faudra quitter ces grandes concentrations, certains le disent, mais c'est très hypothétique. Et est-ce que des effets de retour sont possibles? Je suis très, très, très sceptique sur le... Donc, certainement qu'il y a des processus à corriger maintenant, parce que ces effets de polarisation sont extrêmement importants. Je reviens sur mes effets. Il faut voir aussi qu'en fait, l'Europe a créé des types de spécialisations qui ont beaucoup intéressé les économistes. C'est-à-dire que quand on fait du commerce international, on avait l'idée que chacun se spécialisait sur les produits sur lesquels il était le meilleur. Et la vieille histoire de David Ricardo nous disant « le Portugal va faire du vin et puis l'Angleterre fera du tissu », eh bien ça ne marche pas. Si vous regardez, aujourd'hui, on est en train de vouloir défendre PSA, c'est scandaleux, PSA a du mal, et qui est-ce qui est face à lui? C'est Volkswagen. Et puis si on pouvait arriver à prendre des parts de marché à Fiat, ça ne nous dérangerait pas. Mais attendez, on fait tous des voitures. Les Italiens font des voitures, les Espagnols font des voitures, les Français font des voitures, les Allemands font des voitures, les Anglais, c'est plus leur marque, mais il y a encore des voitures qui sont fabriquées. On en fait presque partout en Europe. En fait, le commerce international à l'intérieur de l'Union européenne n'a pas fonctionné exactement comme on l'attendait. On a eu de plus en plus ce qu'on appelle de la spécialisation intra-branche. Vous voyez bien qu'on a essayé d'occuper des segments. À l'intérieur de l'automobile, le moyen haut de gamme a plutôt été pris par les Allemands, que la France était sur du bas moyen de gamme et qu'on essaye de remonter vers du moyen de gamme parce qu'on n'arrive plus à résister sur du bas de gamme, parce que sur du bas de gamme, on voit une concurrence mondiale qui apparaît et du low cost sur lequel on sait qu'on aura du mal à résister, ou alors on décide d'aller produire en Roumanie. Eh bien, on voit que ce qui est en train de se dessiner, c'est un commerce international sophistiqué et extrêmement intéressant, où on a à la fois de la spécialisation intra-branche, c'est-à-dire qu'il y a des branches dans lesquelles on fait tous les mêmes produits, et puis en même temps, vous pouvez avoir de la spécialisation inter-branche, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des activités sur lesquelles il y a un pays qui domine tous les autres. Mais à l'intérieur de l'Europe, on a beaucoup de spécialisation intra-branche. L'Union européenne a développé ce système complexe. Vous avez des explications, d'ailleurs, pourquoi on échange? Pourquoi vous achetez des Volkswagen et pas des Renault?
Des réputations. La qualité.
Oui, les pièces détachées sont les mêmes. Genre, ils se fournissent exactement, ils mettent les mêmes pièces détachées. Sauf à me dire que les Allemands sont plus consciencieux pour fabriquer des voitures que les Français. Là, on est quand même sur un argument peu économique.
C'est des modes.
Volkswagen casse les prix en France et Renault les casse en Allemagne.
Ah. Excellente réflexion. La première, en effet, c'est que leurs politiques de marge sont très différentes. Que chacun essaye, en effet, de conquérir l'autre marché en sacrifiant sur les marges. Mais parce qu'ils savent aussi une chose, les uns comme les autres, c'est qu'il y a une partie des consommateurs qui voudront toujours consommer d'abord de la différence. C'est-à-dire que si j'avais un raisonnement uniquement en termes d'offres, il me paraîtrait logique que, eh bien, on n'ait que des Renault et des Peugeot en France, que des Volkswagen et des Mercedes en Allemagne, que des Fiat en Italie. Mais en fait, les marchés, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Et comme il y a en fait des stratégies de différenciation à l'intérieur des consommateurs, il est inutile pour Renault d'aller conquérir tous les consommateurs français parce qu'il faudrait quasiment les payer les derniers pour qu'ils veuillent bien prendre une Renault. Et donc c'est beaucoup plus facile de conquérir les consommateurs allemands qui veulent se différencier en n'ayant pas une Volkswagen. Ceux-là sont très alléchés par une nouvelle Renault. Et du coup, ça nous amène à avoir cette spécialisation intra-branche, parce que quand vous prenez les dynamiques de demande, tout, dans tous les pays européens, il y a toujours une partie des consommateurs qui ont assez envie d'avoir ces produits étrangers, ces produits différents. Et c'est du coup, après, une solution, parce que vous pouvez, dans votre créneau, eh bien, essayer d'avoir la voiture avec le coffre le plus grand, et vous avez la réputation que c'est ces voitures-là qui ont le coffre le plus grand, ou qui ont tel comportement routier, avec des suspensions les plus douces, etc. Mais ça devient totalement de l'intra-branche. On a, à ce moment-là, des petites différences, voire très subjectives, comme vous pouviez tout de suite avoir en me disant... on fait des Volkswagen qui sont plus solides que les Renault, etc. On va avoir des images de consommateurs qui vont justifier la différenciation. Et ça, c'est de la spécialisation intra-branche. Donc, en fait, on a des effets de ce type-là. On a cette spécialisation intra-branche, mais malgré tout, les deux qui ont le plus joué sur cette diversification et qui ont réussi à maintenir à peu près ces niveaux-là, c'est l'Allemagne et la France. Quand vous regardez les autres, c'est beaucoup moins net. Et comme entre l'Allemagne et la France, le match n'est pas tout à fait à égalité, puisque la part de la production industrielle dans la production nationale en France a tendance à décliner, on peut se demander si dans la spécialisation intra-branche, il n'y a pas quand même des gagnants et des perdants. Et la France est dans une position assez inconfortable parce que c'est le seul rival de l'Allemagne qui, en tant que grand pays avec une production industrielle importante, pouvait, dans la spécialisation intra-branche, avoir cette espèce d'échange équilibré, et actuellement il est relativement en train de se rompre. Et si on n'arrête pas de parler en France là, du choc de compétitivité, du rapport de Louis Gallois qui doit sortir, c'est bien évidemment parce qu'on voudrait infléchir cette dynamique-là qui est assez récente quand même et qui pose ce problème de la spécialisation intra-branche. Dernière chose, et autre effet, il faut bien voir que le commerce international et le commerce à l'intérieur de l'Union européenne est un commerce qui entre dans la logique de ce qu'on appelle aujourd'hui la division internationale des processus productifs. Je ne vous demanderai pas tous de démonter votre téléphone portable, mais si vous regardiez les pièces qui sont dans votre téléphone portable, si vous regardiez la part de valeur ajoutée qui revient à tous ceux qui ont contribué à la production du téléphone portable, et y compris bien évidemment les logiciels qui ont été mis dessus et les différents services qui vous sont accessibles, vous apercevriez que très souvent, eh bien, un produit génère énormément de composants qui viennent du reste du monde. Il me semble bien que pour le fabriquer en France, la seule voiture qui a eu le label n'est absolument pas française d'origine au niveau de la marque. Hein. Bon, si vous regardez, bien évidemment, si vous démontez non seulement votre téléphone, mais aussi votre voiture, vous allez avoir le même problème. C'est-à-dire que ça modifie beaucoup l'approche du commerce international, ce que je vous raconte là. Si vous commencez à me dire que pour protéger les produits français, il faudrait augmenter les barrières douanières, je vais augmenter aussi les tarifs douaniers sur des produits intermédiaires qui rentrent dans la fabrication des Renault, des Peugeot et de tous les produits qu'on fabrique en France. Et du coup, les coûts de production des produits français vont augmenter. Et comme les coûts de production vont augmenter, on va avoir du mal à les exporter. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? À partir du moment où il y a division internationale des processus productifs, on ne peut plus regarder le commerce international comme on le regardait il y a 30 ou 40 ans. Il y a plus de 40% du commerce dans le monde qui est du commerce de produits intermédiaires, c'est-à-dire de produits qui rentrent dans des produits. Et quand on dit que la Chine, par exemple, envahit avec ses produits, très souvent, il faut regarder quelle est la part de valeur ajoutée qui revient réellement à la Chine. D'accord, on fabrique les iPhones en Chine, mais la part qui revient aux entreprises chinoises sur les iPhones est inférieure à 10%. 90% de la valeur est partagée entre des entreprises qui sont dans le reste du monde et très largement américaines. Du coup, c'est l'intérêt des Américains, bien évidemment, qu'on vende le plus possible d'iPhone parce que l'essentiel de la valeur revient vers eux. Et du coup, ça complique beaucoup l'approche qu'on peut avoir de est-ce qu'il faut être protectionniste ou pas, est-ce qu'il faut laisser ou pas rentrer les produits. Il me semble bien qu'on a un ministre qui est devenu très prudent d'ailleurs là-dessus, parce que quand on regarde de près, aider une entreprise française, c'est parfois faciliter les importations, parce qu'elle a besoin d'avoir des pièces détachées à un coût le plus faible possible pour être compétitive sur le marché mondial. Ça, c'est la division internationale des processus productifs. Et non seulement elle se fait à l'échelle mondiale, mais elle se fait bien évidemment à l'échelle de l'Union européenne. Et donc, quand on se méfie parfois du plombier polonais ou de l'ouvrier roumain, attention! Bien évidemment, si vous avez des services qui sont fournis à un prix très faible, ce qui se passe par exemple en Allemagne, les entreprises allemandes sont très compétitives parce qu'elles se fournissent en services à des prix extrêmement bas. Alors c'est lié aussi au fonctionnement du marché du travail allemand, mais les entreprises industrielles ont externalisé beaucoup de leurs activités de services. La comptabilité, la communication avec la clientèle, etc. Tout ce qui était à l'intérieur des entreprises industrielles maintenant est fait par des entreprises qui sont sous-traitantes. Et du coup, il est intéressant pour une entreprise industrielle de diminuer ses coûts de production en achetant à un prix le plus bas possible les services qu'elles utilisent. Et pour fabriquer des produits industriels, vous avez besoin de beaucoup de services. Et plus la production est complexe, plus vous achetez des services. Évidemment, si vous achetez des services que vous pouvez très bien faire produire à l'étranger, hein, les centraux téléphoniques, on connaît tous la solution du service téléphonique qui n'est pas en France, eh bien, vous diminuez à ce moment-là les coûts sur les produits. Donc, on est dans une situation qui est assez particulière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut tenir compte de cette division internationale des processus productifs si on veut arriver à être le plus compétitif possible. Et donc la réponse à quelle est la bonne politique commerciale doit être extrêmement prudente, parce que là où nos entreprises sont dépendantes en matière d'approvisionnement d'entreprises étrangères, il ne faut pas mettre d'obstacles si on veut que nos entreprises arrivent à exporter. Et il n'y a pratiquement plus de produits, sauf des produits primaires, sur lesquels vous arrivez à avoir, en fait, de la matière première au produit fini, une ligne de production qui est totalement nationale. Donc, vous voyez, les effets qu'on attend ici d'une union douanière doivent intégrer tous ces problèmes qui sont évidemment assez complexes.